l'Église orthodoxe aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Mon invité d'aujourd'hui est le père archimandrite Placide Desailly, un des plus importants pères spirituels et théologiens orthodoxes français, fondateur de la collection Spiritualité orientale, éditée par l'abbaye de Bellefontaine. Le père Placide a découvert l'orthodoxie à travers la lecture des écrits des saints pères de l'Église. Il a connu le monachisme orthodoxe pendant ses visites en Roumanie. Fasciné par la forte tradition monastique roumaine, qu'il a trouvée extrêmement proche de celle de Saint-Père, il a compris toutefois qu'un rattachement canonique à l'Église orthodoxe roumaine était difficile à cause du régime communiste de cette époque. Ensuite, le père Placide est devenu moine orthodoxe au Mont Athos et il a fondé en 1978 le monastère de Saint-Antoine-le-Grand sur la montagne Vercors en Dauphiné, comme métochion ou dépendance du monastère de Simonos Petra de la Sainte Montagne. Dans ce monastère dont il est l'abbé, nous pouvons retrouver en français tous les offices et la spiritualité de la République monastique orthodoxe du Mont Athos. Les moines orthodoxes du monastère de Saint-Antoine-le-Grand, aidés par leurs frères grecs du monastère Simonos Petra, ont été les premiers à commencer un travail systématique d'adaptation et d'interprétation du chant liturgique byzantin en français. D'ailleurs, ils interprètent les chants que vous allez entendre durant cette émission. Le père Placide a été longtemps professeur de patrologie à l'Institut de théologie orthodoxe en Sèche de Paris, où il continue à donner des conférences sur la vie et l'œuvre des saints pères de l'Église. J'ai demandé au père Placide Desailly de nous donner un témoignage sur son long chemin dans la foi chrétienne et sa découverte de l'orthodoxie.
Oui, c'est effectivement un long chemin. Je suis entré dans un monastère catholique en 1942. Donc il y a 60 ans maintenant. Et une douzaine d'années après avoir fait mes études théologiques et être ordonné prêtre, j'ai été nommé professeur de théologie pour enseigner la théologie aux jeunes moines du monastère qui se préparaient au sacerdoce. Et je me suis rendu compte très vite que si on voulait enseigner la théologie dans un monastère, on ne pouvait pas le faire comme un simple séminaire, mais qu'il fallait que cette théologie soit liée à la vie spirituelle. Et il m'a semblé que c'était un retour au Père de l'Église, à l'enseignement des Pères de l'Église, qui nous permettrait de donner une dimension véritablement monastique et spirituelle à l'enseignement de la théologie. Donc, sans négliger un auteur comme Saint Thomas d'Aquin, la grande théologie médiévale, j'ai surtout étudié à ce moment-là la grande tradition patristique, et j'ai pu, grâce à la bienveillance de mes supérieurs, venir de temps en temps à Saint-Serge, m'entretenir avec le professeur de patrologie de Saint-Serge, le père Cyprien Kern, ceci dès les années 50. Et je dois dire que c'est le père Cyprien qui m'a véritablement initié au père de l'Église et initié à une théologie orthodoxe fondée sur l'enseignement des pères de l'Église. Le père Cyprien était professeur de patrologie, mais en même temps, il connaissait admirablement tous les problèmes dogmatiques et il a été pour moi un initiateur tout à fait remarquable. Je lui dois beaucoup. J'avais presque chaque mois un entretien assez long avec lui et j'ai reçu beaucoup de lui. Donc, dès cette époque-là, il y a 50 ans, Saint-Serge était déjà dans mes perspectives. Et c'est cette étude des Pères de l'Église qui, petit à petit, m'a aidé à réaliser que c'est là que l'on trouve la plénitude de la foi chrétienne, c'est chez les Pères que l'on trouve ce qui doit être la référence fondamentale, la norme pour nous. Et j'ai senti peu à peu que l'Église catholique en avait gardé certainement une grande partie, mais tout de même, sur certains points, s'en était partiellement écartée au cours des siècles. Et l'orthodoxie m'est apparue comme le lieu où on retrouvait toute cette plénitude originelle du christianisme.
Il faut dire aussi qu'à l'époque, vous avez fondé la collection Spiritualité orientale à l'abbaye de Bellefontaine.
Oui, c'est ça. Et c'est justement dans cette perspective, et parce qu'il y avait autour de moi des jeunes moines qui s'intéressaient beaucoup à la tradition patristique, aux pères du désert, aux pères de l'ancien monachisme, que j'ai fondé à Bellefontaine cette collection Spiritualité orientale, qui existe toujours, qui n'a pas cessé de se développer, et qui a beaucoup contribué, certainement beaucoup aidé les orthodoxes en France à eux-mêmes approfondir cette tradition patristique.
Père Placide, quelle était la suite de cette conclusion?
Eh bien, la suite, c'est que j'ai pu ensuite créer un petit monastère qui était encore dépendant de l'Église catholique, mais où nous avons essayé, moi et quelques jeunes moines qui m'avaient demandé de les orienter dans ce sens, nous avons pu là essayer de vivre vraiment la tradition monastique orthodoxe et de la tradition des pères de l'Église en plénitude. Et pour pouvoir le faire, nous avons senti la nécessité d'aller nous ressourcer dans les pays orthodoxes, et à l'époque, nous sommes surtout allés en Roumanie. Et en Roumanie, j'ai découvert, dans certains monastères, une tradition monastique extrêmement forte, extrêmement proche de celle des pères, notamment dans un monastère comme Sicastria, par exemple, où j'ai bien connu le père Cléopa, également le père Pétronier, qui est maintenant igoumène du monastère roumain du Moitos. Et ces contacts avec la Roumanie, j'ai dû faire à cette époque-là presque tous les 2 ans un voyage en Roumanie, donc au total, disons, 4 voyages, j'en ai fait un 5e il n'y a pas très longtemps, où j'ai pu voir tout le changement opéré en Roumanie avec l'effondrement du communisme, le climat avait totalement changé, mais je retrouvais tout de même encore la même foi profonde dans le peuple, cette foi populaire et en même temps très articulée sur l'Église. Il n'y a pas une foi intellectuelle des hommes d'Église et une foi populaire qui serait regardée un peu de haut par les intellectuels de l'Église, mais il y a une unité profonde justement entre le peuple chrétien, la foi du peuple, et puis celle des moines, des théologiens. Et c'est cet aspect unitaire de l'Église qui m'a beaucoup frappé en Roumanie. Et de voir que les monastères n'étaient pas du tout coupés du peuple. Il y a une part de séparation du monde qui implique toute vie monastique, bien sûr, mais les monastères étaient vitalement liés, vivaient en symbiose avec le peuple roumain. Et d'ailleurs, ont contribué pour une bonne part à maintenir très vivante la foi dans ce peuple à une époque où officiellement le régime était athée.
Quelle personnalité va impressionner le plus pendant vos voyages en Roumanie?
Certainement le patriarche Justinien, qui était un homme tout à fait remarquable et qui a su avoir une attitude à la fois conciliante sur certains points à l'égard du régime communiste, mais extrêmement ferme quand il le fallait aussi. Et puis alors, bien sûr, à Sicastria, le père Cléopa, à Sumbata de Sousse, le père Théophile. Oui, ce sont eux qui m'ont peut-être le plus marqué là-bas. Si. J'ai bien connu aussi le père Ioanni Kebolan, qui a écrit beaucoup de souvenirs sur les saints Starès. Oui.
Vous pouvez, s'il vous plaît, évoquer dans quelques mots l'impression que vous a laissé le grand abbé Cléopa de Sicastria.
Le père Cléopa était un homme profondément pénétré de l'enseignement, de la filiocalie, l'enseignement des saints pères, et qui, je dirais, faisait cacher sa personnalité derrière cet enseignement. Le père Cléopa ne parlait pas de ses expériences personnelles, de sa vie spirituelle personnelle. Toujours, il enseignait ce qu'avaient dit les pères. Et si on lui posait une question sur tel ou tel point de la vie spirituelle, il répondait « les pères ont dit ceci, les pères ont dit cela ». Et avec une extrême discrétion sur sa propre personne.
Et toute sa théologie était une théologie de l'esprit parce qu'il n'avait jamais fait des études.
Non, mais il avait quand même beaucoup lu Saint-Père, et il avait une mémoire prodigieuse. Oui. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le père Théophile, Sumbata de Sousse, qui était un moine aveugle, mais un moine aveugle d'une intelligence remarquable, d'une vie spirituelle très très profonde. Et à le voir, on oubliait qu'il était aveugle, tellement il était présent, tellement il connaissait par cœur les textes. Oui.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi la Roumanie parmi les pays orthodoxes?
J'ai choisi la Roumanie parce que en Grèce, à cette époque-là, le monachisme n'était plus très vivant. C'est à partir seulement des années 70 qu'il y a eu un grand renouveau monastique, surtout au Mont Athos. Alors je suis allé au Mont Athos à partir de 1971. Mais la Roumanie, elle, avait gardé une tradition monastique très, très vivante et qui avait été revivifiée après la guerre grâce aux efforts du patriarche Justinien et d'un certain nombre de starets. Et d'autre part, la Russie n'était pas accessible non plus. Donc en Roumanie, on avait l'avantage d'avoir une église encore très très vivante, un monachisme qui avait souffert bien sûr du régime communiste, mais qui avait encore une grande vitalité, et vraiment très fidèle à la tradition qui avait été revivifiée au fin XVIIIe siècle par Saint-Paisy-Leschowski dans les monastères de Moldavie, et avec toute une tradition qui avait là son origine et qui continuait.
Et aussi peut-être le fait que l'orthodoxie roumaine est la seule orthodoxie d'expression néo-latine.
Oui, c'est ça, c'est plus accessible pour nous que d'aller directement en Grèce ou en pays slave, tout à fait.
Et qu'est-ce que s'est passé en Roumanie à l'époque?
Eh bien, nous ne pouvions pas à l'époque nous rattacher canoniquement à la Roumanie à cause justement de ce régime communiste qui ne laissait pas à l'Église une pleine liberté. Et c'était difficilement pensable d'établir un lien canonique à cause de cela. Et c'est l'époque où le Mont Athos se renouvelait, où de jeunes communautés, sous la conduite de pères spirituels très expérimentés et d'une grande valeur, se renouvelaient pleinement. Et à ce moment-là, alors, nous sommes allés au Mont Athos pour recevoir un enseignement et nous insérer dans la tradition monastique orthodoxe.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît, l'histoire de vos premières deux visites en Roumanie? L'igoumène du monastère Sihăstria a eu certains problèmes à cause du régime communiste suite à votre visite.
Oui, ce n'est pas tellement à la suite de notre visite, mais davantage à la suite de visites de quelques moines catholiques qui sont allés et qui ont ensuite, sans se rendre compte que ça pouvait être nuisible pour le monastère, raconté dans des articles de revues publiés en France leur séjour là-bas. Notamment leur rencontre avec un ermite, alors que la vie ermitique était interdite par le régime, et cela a attiré alors des ennuis, et le père Starets de Sihăstria à l'époque a été ensuite démis de ses fonctions et a beaucoup souffert des suites de ces sanctions prises contre lui.
Et quand vous êtes
C'était
rentré...
le père Calliope.
Et quand vous êtes rentré en Roumanie, vous avez trouvé le père Calliope à domicile forcé dans le monastère de
Sihăstria. Oui, il avait été exilé d'abord dans un monastère domonial, je crois, et puis également, nous l'avions revu, il avait été mis en résidence surveillée, si l'on peut dire, près de Bucarest, là, oui.
Et justement, pour empêcher certains ennuis et certains problèmes du régime communiste, vous avez choisi le Mont Athos.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que s'est passé ensuite? Comment vous avez découvert le Mont Athos?
Alors donc, nous savions qu'il y avait ce début de renouveau monastique au Mont Athos, et nous avons rencontré le père igoumène de Simons Petra, qui à l'époque était le père Emilianos, qui était un grand spirituel, et il nous a admirablement compris, et moi et mes compagnons avons passé alors pour certains 2 ans, pour d'autres une année entière, à Simons Petra, et c'est là que nous avons été reçus dans l'église et que nous avons été reçus comme moines de Simons Petra. Mais alors, ensuite, André Goumen a jugé que c'était plus opportun que nous retournions en France pour créer en France des dépendances et métochias du monastère de Simons Petra. C'est comme ça que nous avons pu créer en France 3 métochias, 2 métochias féminins et 1 métochia masculin de Simons Petra.
Combien de moines se trouvent actuellement dans vos 2 monastères qui sont des métochias de Simons Petra?
Alors, dans nos monastères, à Saint-Antoine-le-Grand, nous sommes 10, pas tous présents, parce que l'un des moines sert d'aumônier aux sœurs de Sedan. Un autre vit maintenant en ermite dans une petite île de la Méditerranée.
Mais Père Séraphin de Porquerolles.
Père Séraphin, qui est à Porquerolles, oui. Donc nous sommes là une dizaine. Les moniales de Sedan sont une quinzaine. Et je crois que les moniales qui sont autour du Père Élie, au message de la Transfiguration, dans le sud-ouest de la France, elles doivent être 5 ou 6.
Vous étiez un groupe de 3 moines, n'est-ce pas, 3 amis?
À l'origine, oui. Il y avait le Père Séraphin, donc qui est ermite maintenant à Porquerolles, le Père Élie, qui a fondé ce monastère féminin de la Transfiguration, et puis moi-même, qui ai à la fois contribué à la fondation du monastère Saint-Antoine le Grand et du monastère des moniales de Sedan.
Trois monastères et un ermitage qui sont dépendants
du
monastère Simonospetra de
Montos,
qui sont du typikon tout à fait atonite.
Alors nous avons tout à fait le typikon atonite, nous célébrons tout l'office conformément au typikon atonite, mais en français. Et nous avons fait un gros travail pour adapter les mélodies byzantines traditionnelles aux paroles françaises.
Vous êtes le premier à le faire.
Pour le faire pour l'ensemble de l'office, oui. Parce qu'en France, en général, les paroisses orthodoxes francophones ont plutôt adopté les mélodies slaves.
Et aussi, il faut dire que vous avez construit une église.
Oui, alors à Saint-Antoine, nous avons construit une église tout à fait conforme à la tradition atonite. Une église, d'ailleurs, nous avons pu la construire sans difficulté, parce que les services administratifs français nous l'ont dit, mais c'est l'équivalent d'une église romane, sont les mêmes formes, les mêmes volumes qu'une église romane, donc ça ne jurera pas en France, ça ne créera pas de problème avec l'environnement. Et nous avons construit cette église en pratiquement 2 ans et demi.
Qui marie le style byzantin avec le style roman.
Oui.
Avec de très belles fresques.
Oui, parce que nous avons eu ensuite, c'est vraiment un don du ciel, un très bon iconographe russe qui est passé visiter le monastère quand la Russie s'est ouverte après la chute du communisme, qui a été séduit par notre église, par la pureté de ses lignes, et nous a offert de décorer bénévolement toute notre église en signe de l'aide que l'église de Russie voulait apporter à l'orthodoxie en France. Et il a réalisé ainsi en 5 ans, alors en venant 6 mois par an pendant 5 ans, 600 mètres carrés de fresques, avec l'aide de sa femme qui venait également.
Placide Zey, qu'est-ce que pensez-vous que l'orthodoxie doit apporter au monde occidental, et notamment à la France?
Je pense que l'orthodoxie en France peut aider les catholiques et certains protestants français à retrouver des éléments de la grande tradition commune qui a été celle de toute l'Église jusqu'au XIe siècle, et dont bien des catholiques français ont soif. Et en général, ils sont très, très accueillants à l'égard des textes orthodoxes, des publications orthodoxes. Ils aiment venir à nos offices. Et on sent très bien que, sans se convertir à l'orthodoxie nécessairement, l'orthodoxie leur apporte certainement une aide spirituelle.
Vous avez conservé vos bonnes relations avec l'abbaye de Bellefontaine.
Oui, nous avons une très bonne relation avec Bellefontaine, avec d'autres monastères catholiques. Tout à fait.
Et comment voyez-vous une possible réconciliation véritable entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine?
Bon, il y a déjà de grands pas de fait parce qu'il n'y a plus de suspicion réciproque, il y a la charité règne entre les deux églises en France. Mais pour arriver à un rétablissement de la communion entre les deux églises, ce serait évidemment très difficile parce que l'Église catholique a défini comme dogme depuis le Moyen-Âge un certain nombre de points qui ne sont pas en accord avec la tradition ancienne, la tradition qu'a retenue l'Église orthodoxe. Mais pour les catholiques, ce sont des dogmes de foi. Donc elle ne peut pas revenir, semble-t-il, dessus. Ou alors, ce n'est pas impossible que l'Église catholique explique un jour que ces dogmes ont une visée qui est purement traditionnelle et que leur mode d'expression a été influencé par une époque, par la théologie particulière d'une époque, et donc a un caractère relatif. C'est dans cette voie-là, je crois, qu'un accord doctrinal pourra s'établir un jour. Mais ça demandera encore beaucoup de temps et beaucoup d'échanges et de confrontations.
Quels sont les points les plus importants qui doivent être résolus dans ces dialogues théologiques et œcuméniques entre les deux églises?
Je dirais que c'est toute la théologie, parce que comme le disait un religieux catholique qui s'est beaucoup occupé de ce rapprochement entre les différentes confessions chrétiennes, le père Yves Congar. Le père Yves Congar disait entre l'orthodoxie et le catholicisme, tout est semblable et tout est différent. C'est-à-dire que les mêmes points fondamentaux se retrouvent de part et d'autre, mais toujours un éclairage différent, et il n'y a pas seulement des divergences sur quelques points. Bon, il y a pour la Sainte Trinité, le filioque, le fait que le Saint-Esprit procède, pour les orthodoxes seulement du Père, et pour les catholiques du Père et du Fils, n'est-ce pas? Il y a la manière de formuler la doctrine du purgatoire. Enfin, mais ce sont des points, je dirais, qu'il ne faut pas isoler d'un ensemble, c'est toujours une manière de voir l'ensemble du christianisme, de la vie chrétienne, de la doctrine chrétienne, qui est tout de même différente, qui a une accentuation différente.
Et vous pensez qu'il y a des espoirs pour le futur proche
n'ose pas dire proche, n'est-ce pas? Mais je suis certain qu'on peut espérer la réunion. Mais quand Dieu voudra, et humainement parlant, c'est très difficile. On sent qu'il y a encore actuellement beaucoup d'obstacles.
Vous connaissez très bien la théologie catholique contemporaine. Est-ce qu'il y a un courant vraiment qui va vers cette direction?
Il y a des personnalités qui s'intéressent à la théologie, qui en sont proches, mais la théologie catholique, dans son ensemble, ne va pas tellement actuellement dans le sens d'un rapprochement avec l'orthodoxie. Elle est plutôt intéressée par des problèmes qui ne sont pas ceux qui semblent primordiaux aux orthodoxes. Et l'orientation est une différente.
Vous pouvez citer des noms de théologiens catholiques qui ont vraiment œuvré ou qui œuvrent dans ce sens-là?
Alors, par exemple, tous les grands jésuites qui ont été à l'origine du renouveau patristique, des hommes comme le père de Lubac, le père d'Agnelou, enfin le cardinal Lubac, le cardinal Agnelou. Ces hommes-là ont beaucoup fait pour un rapprochement avec la tradition orthodoxe. Mais vous avez d'autres théologiens, moins connus peut-être, mais qui semblent surtout préoccupés par établir des contacts entre les sciences humaines actuelles et la tradition chrétienne. Ça, ce n'est pas sans intérêt, mais c'est tout de même dans un esprit différent de celui de la tradition patristique.
Placide Zey, vous êtes français de souche et orthodoxe.
Oui.
Et vous œuvrez beaucoup pour l'inculturation de l'orthodoxie en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Comment voyez-vous une orthodoxie française?
Je pense, pour ma part, qu'il faut que l'orthodoxie française garde l'essentiel de la tradition orthodoxe, y compris sur le plan liturgique. je ne serais pas favorable à une liturgie propre, par exemple à la France, comme certains l'ont cherché. Mais par contre, je crois qu'il est extrêmement important que les offices soient en français, que l'on développe beaucoup les traductions, les adaptations également des mélodies byzantines sur des paroles françaises. Il y a là tout un travail à faire pour faire passer toute la tradition orthodoxe, notamment liturgique, dans la langue française et dans une expression française.
Qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet très important de retrouver une unité visible de l'Église locale en France?
Oui, je crois que c'est très important, parce que c'est très malheureux que l'Église soit morcelée entre des juridictions diverses, toutes liées à des origines ethniques différentes. Et ça, c'est une négation un peu du mystère de l'Église, où il ne doit plus y avoir ces différences de nationalité. Mais d'autre part, si on tient compte du fait que l'Église orthodoxe est présente en France maintenant grâce à diverses immigrations, on comprend que pastoralement, les patriarches, les évêques des différentes nations aient voulu assurer un service liturgique et pastoral pour leurs fidèles. Mais il serait extrêmement souhaitable qu'assez rapidement maintenant puisse arriver une unification. Mais je ne me fais pas d'illusions, ce sera difficile.
Et comment voyez-vous cette église locale?
Il faudrait qu'il y ait un archevêque orthodoxe à Paris, n'est-ce pas? Et puis des diocèses locaux, qu'il y ait un certain nombre d'évêques ayant leur siège dans des grandes villes de France et ayant une juridiction sur un territoire donné. Alors au sein de chaque diocèse, on pourrait très bien imaginer, pour des émigrés qui ne connaissent pas encore la langue française, qu'il y ait quelques vicariats, quelques paroisses de langue roumaine, de langue serbe, de langue russe. Mais tout cela sous l'autorité d'un métropolite unique pour l'ensemble de la France et au sein de diocèses locaux unifiés.
Qu'est-ce que les orthodoxes doivent faire pour cheminer dans cette direction?
Éviter tout ce qui tendrait à identifier l'orthodoxie avec, je dirais, un club folklorique un peu, n'est-ce pas? Bon, on sait très bien que les Grecs en France aient des réunions, des associations culturelles pour garder les chants populaires grecs, les danses grecques, mais ce n'est pas le rôle de l'Église, ce n'est pas le rôle de la liturgie. Et là, il faut que la liturgie, je m'en sois, de plus en plus en français pour que tous les participants, qu'ils soient grecs d'origine, qu'ils soient français, qu'ils soient à l'occasion d'origine slave ou autre, puissent vraiment former une seule Église, un seul corps du Christ, au-delà de toutes ces distinctions.
Alléluia, 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 gloire à toi, ô mon Dieu, gloire à
Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. L'invité d'aujourd'hui a été le père archimandrite Placide Dezei, l'abbé du monastère de Saint-Antoine-le-Grand dans le Vercors en Dauphiné. Les chants liturgiques ont été interprétés par les moines du monastère de Simonos Petra au Mont Athos et du monastère de Saint-Antoine-le-Grand dans le Vercors, par la chorale Saint-Jean Damasène de Paris et l'ensemble byzantin Stavropoléos de Roumanie. Nous vous souhaitons une semaine emplie de joie spirituelle et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguien 98 FM, dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM et durant toute la semaine sur la rubrique Podcast Orthodoxe du site internet orthodoxie.com.